Voice of Indonesia.
Bonsoir, chers auditeurs. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Avec moi, TV Shakila, et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour l'édition d'aujourd'hui, le dimanche 14 juillet 2019. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes. Nous commençons par le journal, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel et des chansons indonésiennes. Nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia. Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme du journal. On commence par le titre. Le président Jokowi a rencontré Prabowo et invite tous les Indonésiens à s'unir. L'Indonésie exprime le concept d'une destination du Pacifique en Nouvelle-Zélande. L'entreprise politique, ou abrégée en BUMN, Dahana exportera des explosifs en Australie. L'Indonésie cible la Turquie comme nouveau centre d'exportation. Chers auditeurs, voici le journal complet. Le président élu, Joko Widodo, a rencontré son concurrent lors de l'élection présidentielle 2019, Prabowo Subianto, samedi dernier. Ils ont rencontré à la station de MRT Lebak Bulus, au sud de Jakarta. Leur réunion a été chaleureusement accueillie par des citoyens qui ont crié leur nom. Le président Jokowi a demandé à toutes les composantes de la nation de renforcer de l'unité pour le progrès de la nation et de l'État.
Kita juga berharap agar para pendukung juga melakukan hal yang sama, karena kita adalah saudara sebangsa dan setanah air. Tidak ada lagi yang namanya 01, tidak ada lagi yang namanya 02.
Nous espérons également que les supporters feront la même chose, car nous sommes frères et sœurs du même pays. Il n'y a plus le numéro 1 et le numéro 2. Ce qui est disponible est Garuda Pancasila. Nous reconstruirons l'unité nationale, parce que la concurrence mondiale, la concurrence entre les pays se renforce. On a besoin d'une solidarité pour l'avancement de ce pays, pour construire deux pays. À cette occasion, Prabowo a dit bon travail au président élu Jokowi. Lors d'une réunion avec Prabowo, Jokowi était accompagné du secrétaire du cabinet Pramono Anung et du chef de l'agence de renseignement de l'État, Budi Gunawan. Pendant ce temps, Prabowo était accompagné du secrétaire général du parti Gerindra, Ahmad Muzani. Au Forum du Pacifique Exposition 2019, qui s'est tenu en Nouvelle-Zélande, l'Indonésie a exprimé le concept « une destination du Pacifique » comme un effort visant à réaliser un tourisme durable dans la région du Pacifique. Dans un communiqué de presse samedi à Jakarta, le ministre du Tourisme Arif Yahya a expliqué que le secteur du tourisme pourrait créer de nouvelles opportunités qui étaient faites ensemble. Il a déclaré cette question devant la délégation des pays du Pacifique lors du Forum Pacific Exposition 2019 à Auckland, en Nouvelle-Zélande, samedi dernier. L'exposition du Pacifique est une exposition sur le commerce, les investissements et le tourisme pour les pays du Pacifique, initiée par l'Indonésie et soutenue par la Nouvelle-Zélande et de l'Australie. Selon Arif Yahya, le concept a été mis en œuvre par des pays d'autres régions où ils s'étaient unis, collaboré et organisé des forfaits de voyage en commun. Bambang Agung, le directeur des opérations de PT Dahana Persero, a déclaré qu'il exporterait 86 000 kg de produits explosifs, soit l'équivalent de 8 conteneurs en août 2019 vers l'Australie. Lors de la visite de la ministre de l'Entreprise publique, ou BUMN, Rini Sumarno, à l'occasion de l'exposition du Pacifique 2019 à Auckland, en Nouvelle-Zélande, Bambang Agung a annoncé que Dahana effectuerait une deuxième expédition en Australie de 86 000 kg ou 8 conteneurs de produits explosifs destinés à être commercialisés par Jonex Explosives. Bambang a déclaré dans une déclaration écrite samedi dernier à Jakarta que la compagnie australienne d'explosifs Jonex Explosives a convenu d'acheter des produits explosifs chaque année. En 2019, PT Dahana a envoyé 3 conteneurs Cartridge Emulsion de 37 500 kg. Outre l'Australie, Dahana cible actuellement le marché d'exportation vers le Timor-Leste et le Fidji. Le gouvernement indonésien cible la Turquie en tant que nouveau lien d'exportation pour accéder au marché du Moyen-Orient, de l'Europe du Sud et de l'Afrique du Nord. Le ministre du Commerce, Enggar Tias Tolukita, a déclaré que l'ambition serait réalisée si l'accord de coopération entre l'Indonésie et la Turquie était réalisé. Il affirme que les gouvernements indonésiens et turcs ont convenu d'achever les négociations d'accord de partenariat économique global entre l'Indonésie et la Turquie cette année. Enggar Tias Tolukita a dit samedi que l'Indonésie et la Turquie considèrent leurs partenaires comme des pôles potentiels pour pénétrer les marchés dans leurs régions respectives. L'Indonésie, par exemple, peut utiliser la Turquie comme porte d'entrée sur les marchés du Moyen-Orient, de l'Europe du Sud et de l'Afrique du Nord. Et la Turquie peut faire l'Indonésie une baisse d'entrée sur le marché asiatique de 600 millions de personnes, ainsi que le partenariat économique global régional avec une population de 3,5 milliards. C'est tout les journaux, et voici l'entretien avec l'ambassade de France, Monsieur Jean-Charles Bertonnet.
La France qui soutient l'Indonésie à propos de la campagne de l'UPAM, et c'est bien bon parce qu'il y a certains pays européens qui ont stoppé l'huile de palme.
L'huile de palme est un problème compliqué, malheureusement souvent vu avec des schémas trop simples. En ce qui concerne la position de la France, et c'est de dire qu'il n'y a pas d'hostilité à l'huile de palme. Ce que nous souhaitons, c'est être sûr que l'huile de palme qui arrive sur le marché européen soit soutenable. C'est-à-dire qu'elle n'accélère pas la déforestation, voire qu'elle permette de lutter contre la déforestation, la perte de biodiversité. Pour ça, il y a des certifications qui existent. Il y en a peut-être beaucoup, peut-être un peu trop, à mon avis. Le débat qui a lieu en ce moment, c'est porte sur ça, sur comment convaincre les pays importateurs, et notamment la société civile, les consommateurs, les ONG. Parce que le gouvernement français, il peut dire ce qu'il veut. Si les ONG n'y croient pas, ça ne changera absolument rien à l'image de l'huile de palme. Donc il faut que tous ensemble, nous travaillons avec les producteurs, et les producteurs comme l'Indonésie ont fait beaucoup d'efforts pour mettre un terme à la déforestation, pour convertir les peatlands, les tourbières. Ce qu'il faut, c'est que ce travail soit mieux expliqué, mieux compris, qu'il y ait des certifications qui soient crédibles, pour permettre la poursuite de l'importation de l'huile de palme en France et dans l'Union européenne. Donc c'est le débat qui a lieu en ce moment, il porte là-dessus. Il est comment lever les questions qui persistent dans certains milieux sur le caractère soutenable de l'huile de palme. Mais c'est seulement en travaillant ensemble, hein, producteurs et consommateurs, qu'on arrivera à aboutir, à convaincre nos consommateurs de maintenir cette importation, et je suis sûr qu'on va y arriver, du fait notamment du bon travail qui a été fait par les Indonésiens, entre autres, sur le caractère soutenable de la production de l'huile de palme.
Ok, merci monsieur. Maintenant, l'autre question, c'est, vous avez tout à l'heure dit, c'est sur l'exportation de Airbus et les avions. Ici, est-ce qu'il y a la relation entre la question stratégique dans le domaine de stratégique? Est-ce qu'il y a aussi la relation dans le domaine de coopération et de défense et militaire pour ça?
Oui, alors les exportations dont j'ai parlé tout à l'heure sont les exportations civiles d'avions commerciaux, mais il y a aussi une composante militaire et stratégique dans nos relations. Là, depuis que je suis ambassadeur, je crois qu'on a eu 9 escales escale de navires militaires français en Indonésie. Nous coopérons en ce moment même, il y a une réunion ici importante à Jakarta entre le ministère de la Défense indonésien et le ministère de la Défense français. Nous avons des intérêts communs sur ce qu'on appelle la zone Indo-Pacifique, l'axe Indo-Pacifique, et nous savons que l'Indonésie est en pointe au sein de l'ASEAN pour définir ce que c'est que cette zone Indo-Pacifique, ce qu'on peut y faire. Nous avons nous-mêmes, la France aussi, à sa vision, elle est très convergente avec celle de l'Indonésie, notamment sur la mer de Chine du Sud, la nécessité d'assurer la liberté de navigation, de travailler ensemble sur la sécurité maritime, sur la sécurité environnementale, le changement climatique. C'est un thème très important de notre relation bilatérale. Voilà, donc sur ces sujets-là, de défense au sens large, de sécurité au sens large, de la lutte antiterroriste aussi, oui. Très important. Donc nous coopérons étroitement avec l'Indonésie et nous allons continuer de le faire. Et ça peut aussi porter sur éventuellement des exportations de matériel de guerre si l'Indonésie y trouve son intérêt.
Vous avez dit tout à l'heure, c'est la coopération sur l'antiterrorisme. Ça. Ici, comme la France et l'Indonésie, c'est comme la victime du terrorisme. Comment pour les efforts français pour lutter contre le terrorisme?
Alors le terrorisme, c'est, comme vous l'avez dit, c'est une menace commune à laquelle nous devons faire face, une menace mondiale maintenant avec l'État islamique qui a des espèces de filiales un peu partout dans le monde. Nous devons absolument coopérer et nous le faisons. Par exemple, nous avons créé un officier de liaison à l'ambassade depuis un an environ spécialisé dans la coopération sur la lutte antiterroriste. Nous devons échanger des informations entre services spécialisés. Nous devons étudier nos bonnes pratiques de part et d'autre. Comment traiter, par exemple, les combattants qui rentrent du théâtre syro-irakien? Nous en avons, vous en avez, il y a les familles, c'est très compliqué, il n'y a pas de solution simple là non plus. Vous avez une expérience, nous, on a la nôtre. Il y a sans doute des choses à apprendre de part et d'autre. Également sur la déradicalisation, comment s'y prendre, c'est pas simple. Dans un grand pays musulman comme l'Indonésie, il y a des choses que nous pourrions certainement nous inspirer et réciproquement. Il y a le rôle d'Internet, comment combattre la radicalisation sur Internet. Et là, récemment, à Paris, il y a eu un sommet organisé avec la Nouvelle-Zélande. Un sommet auquel a participé le vice-président Kala, qui s'est rendu à Paris, pour renforcer la coopération, pour éviter que Internet soit utilisé par les groupes terroristes, y compris comme dans le cas de Christchurch, où on voit des terroristes qui diffusent en direct leurs actes. C'est absolument inadmissible. Et voilà, donc il faut qu'on trouve entre les États et les grands acteurs de l'Internet, les Facebook et autres, comment mieux s'opposer à ce genre de dérive. Et là-dessus aussi, nous sommes en totale convergence avec l'Indonésie.
Vous voyez comment l'islam en Indonésie, c'est l'islam en arabe ou c'est quoi?
Alors moi, je ne suis pas un spécialiste de l'islam. Dieu merci, autour de moi, j'en ai qui m'aident. Mais enfin, ce que j'ai compris quand même au bout de 2-3 ans dans ce pays, c'est que l'islam indonésien est un islam particulier qui pratique un genre de syncrétisme avec d'autres religions qui étaient là avant et c'est, qui favorise ou devrait favoriser, j'en suis fondamentalement convaincu, même s'il y a des évolutions dans l'autre sens qui peuvent être préoccupantes, mais qui favorisent unité dans la diversité, tolérance interreligieuse, le Panchasila. Tout ça vient de l'islam archipélagique, l'islam Nusantara, comme on dit ici, qui qui exprime cette diversité, cette tolérance interreligieuse, et ça, il faut absolument le préserver. Je sais que c'est l'objectif numéro un des autorités indonésiennes, que c'est aussi la volonté de 99%, j'allais dire, de la population. Restent les petites minorités, les petits groupes qui se sont radicalisés ben, justement sur Internet, comme on l'a dit tout à l'heure, ou influencés de l'extérieur, qui peuvent faire des dégâts. Donc ceux-là, il faut les combattre. Et vous le faites plutôt bien, d'ailleurs. Et nous devons aussi faire la même chose et nous devons coopérer face à cette menace.
Oui, monsieur. Parce que ici, l'Indonésie, c'est un grand pays avec plus de 100 ethnies, 250 langues. Bien sûr, la diversité, c'est bon, c'est Pancasila qui s'unit de l'Indonésie. Bon, monsieur, c'est... Maintenant, c'est un peu de plus... La France a déjà donné la médaille d'honneur aux Indonésiens, surtout les diplômes français. Pourriez-vous nous expliquer le but de donner ces médailles et pourquoi faire ça?
Alors, ce sont les alumni. Les alumni, les étudiants ou les ex-étudiants, heureusement on reste pas étudiant toute sa vie, après on a une carrière professionnelle, et donc ce sont nos alumni qui ont fait des études en France dans des secteurs très divers, et que nous, et donc ceux qui ont particulièrement réussi, bon c'est peut-être un peu subjectif, mais tous les ans donc, nous choisissons 5 ou 6 alumni qui ont engrangé de beaux succès professionnels dans leur secteur. Et nous leur remettons un prix, d'abord pour les féliciter et puis pour encourager les étudiants indonésiens à se rendre en France pour également poursuivre leurs études. Hier, j'étais à une réunion avec des étudiants qui partent justement en France. Il faudrait qu'il y en ait plus, il y en a environ 500 par an, on voudrait qu'il y en ait beaucoup plus. Parce que nous considérons, et c'est vrai, que les études en France ont un excellent rapport, j'allais dire, qualité-prix, même si les droits d'inscription ont tendance à augmenter, ils restent très inférieurs à ce qui se pratique dans les pays anglo-saxons, Australie, Singapour et autres, et donc ils sont plus accessibles à la classe moyenne indonésienne. Parfois, on n'en a pas assez, mais on peut aussi donner des bourses, soit nous, soit le gouvernement indonésien, soit les autorités européennes ou des secteurs privés. Voilà, donc nous, à travers ce service en langue française, là, je lance un appel aux jeunes indonésiens. Venez étudier en France, vous aurez un diplôme qui tient la route, solide, dans des matières très recherchées, ingénierie, énergie renouvelable, mais aussi le business, la linguistique, le droit, enfin quasiment dans tous les secteurs, on a des offres en français, parfois aussi en anglais, pour ceux qui ne maîtrisent pas suffisamment le français. Donc venez étudier en France, vous serez bien armé pour trouver un emploi, pourquoi pas dans les entreprises françaises comme Airbus ou d'autres, quand vous rentrerez en Indonésie.
Moi, c'est en Indonésie, monsieur. En 2004, j'étais à Paris pour le stage dans la maison de radio.
Ah, ouais, très bien. Oui. La maison ronde, là, oui.
Oui,
c'est ça. D'accord.
2004, c'est le...
Félicitations.
Oui, c'est la première fois.
On va vous mettre dans les candidats aux Alumni Awards de l'année prochaine.
Merci.
Dans les candidats, j'ai dit. Hein, c'est pas moi qui décide.
Merci, vous. C'est maintenant, peut-être, c'est la dernière question, monsieur. Quel est votre espoir pour la France, pour la coopération Indo-France au futur, pour le futur?
Eh bien, c'est qu'elle se renforce, forcément. J'ai parlé tout à l'heure de ces deux visites que nous souhaitons voir se concrétiser. Si c'est le cas, croyez-moi, ça donnera une impulsion très forte à nos relations dans tous les secteurs que j'ai cités. Donc, oui, si dans les 12 mois qui viennent, il y a une visite du président Jokowi à Paris et une visite du président Macron à Jakarta, d'abord, ça va faire du bruit, et tant mieux. ça va créer un élan, une impulsion, d'autant plus que nous fêtons l'année prochaine les 70 ans de l'établissement des relations diplomatiques entre la France et l'Indonésie. Donc... nous espérons un peu faire l'événement, faire le buzz, comme on dit maintenant, en Indonésie, avec ces visites et tout ce qui les accompagne, les signatures de contrats, les MOU, les projets de coopération. Donc voilà, c'est ce que je souhaite pour les relations bilatérales franco-indonésiennes.
Ok, merci beaucoup, monsieur, de votre création de notre studio, en fait, interview avec nous. Et voilà, okay. Cher auditeur, voilà notre interview avec l'ambassadeur français en Indonésie, monsieur Jean-Charles Bertonnet. Moi, Mohamed Suartono.
Voice of Indonesia.
La mise au point de la semaine d'aujourd'hui, dont le titre est « Le radicalisme est une menace », le président Jokowi a chargé la police nationale de donner la priorité à l'approche humaniste. Bien qu'il ait réussi à maintenir une atmosphère favorable au sein de la société lorsque la nation indonésienne avait un programme important ces deux dernières années, le président Joko Widodo a rappelé à la police nationale de la République d'Indonésie de ne pas se laisser aller. C'est ce qu'a déclaré le président Joko Widodo dans son message lors de la 73e cérémonie de commémoration du jour Bayangkara 2019 au champ du Monument National à Jakarta, mercredi 10h du matin. Le président Joko Widodo a également rappelé que les crimes qui perturbaient l'ordre social, tels que les conflits sociaux, les émeutes de masse et les manifestations anarchistes, on doit les anticiper. Le président a également déclaré que le terrorisme et le radicalisme étaient des menaces potentiellement graves, tandis que le développement des technologies de l'information a contribué à la diversité des crimes potentiels dans le cyberespace. En outre, la diffusion de fausses nouvelles et de déclarations haineuses constituait une menace pour l'harmonie, pour l'unité de la nation indonésienne. Cela nécessite l'intelligence et la rapidité d'action de la police nationale. Le président a ajouté que la criminalité transnationale telles que la circulation de stupéfiants et la traite des êtres humains, nécessite un traitement professionnel. De même, a souligné le président, il doit éliminer les actes criminels de corruption, de pêche illégale, d'exploitation minière illégale et d'exploitation forestière illégale, afin de protéger les intérêts de la communauté, de la nation et de l'État. À cette occasion, le président Joko Widodo a donné plusieurs instructions à titre de directives pour la réalisation des tâches que tous les niveaux de la police nationale doivent effectuer. Le premier est d'améliorer toujours la qualité des ressources humaines de la police nationale indonésienne pour faire face aux défis de tâches de plus en plus complexes. Deuxièmement, donner la priorité aux stratégies proactives et préventives avec des approches et des actions humanistes. Et troisièmement, améliorer toujours la qualité des services publics modernes, simples et rapides. Quatrièmement, augmenter le professionnalisme et la transparence pour l'application de la loi et donner la justice à la communauté. Enfin, renforcer la coordination et la coopération avec l'armée nationale indonésienne, le ministère des institutions, le gouvernement régional et la communauté pour le maintien de la sécurité et de l'ordre social. Répondant à cela, le général Tito Karnavian, chef de la police nationale, a accepté et a déclaré qu'il était prêt à donner suite aux instructions du président. Voici l'histoire d'aujourd'hui, le 14 juillet. On commence par le 14 juillet 1958. Lors de la révolution irakienne, le roi Faisal II était dans le coup d'État nationaliste. Faisal II était le roi d'Irak qui régnait de 1939 à 1958. Faisal n'a fait que 3 ans quand le 4 avril 1939, il a été couronné roi d'Irak après la mort de son père, Ghazi I, à cause de l'accident de voiture. Son oncle, Abd al-Ilah, devient tuteur du roi jusqu'à ce que Faisal ait atteint un âge suffisant. Depuis le 2 mai 1953, Faisal II a pris le pouvoir. En 1958, il y a des émeutes en Irak, provoquant la révolution sous la direction de Abdul Karim Qasim. Le 14 juillet 1958, le roi Faisal est mort dans la révolution. Faisal II est le dernier roi d'Irak. Puis, le 14 juillet 2011, le mont Lokon à Sulawesi du Nord entre en éruption. Le mont Lokon est une montagne située près de la ville de Tomohon, la province du Sulawesi du Nord. Jeudi le 14 juillet 2011, à 22h45 heure centrale indonésienne, le mont Lokon est une montagne située près de la ville de Tomohon, la province de Sulawesi du Nord. Jeudi le 14 juillet 2011, à 22h45 heure centrale indonésienne, le mont Lokon dans le cratère de Tompaluan est entré en éruption avec des matériaux incandescents, du sable et des cendres environ 1500 mètres. En outre, l'éruption s'est produite de nouveau vendredi matin vers 1h30 du matin avec une rafale de matière volcanique 600 mètres. Cette éruption a poussé plus de 10 000 habitants de plusieurs villages, notamment de Kinilo, de Tinor et de Kakaskasen, à chercher refuge à Tomohon ou à Manado. À cause de cette éruption, deux résidents sont décédés. Nous terminons avec le 14 juillet 2016, l'attaque à Nice 2016. Le 14 juillet 2016, une attaque visait une foule de personnes qui regardaient les célébrations du 14 juillet sur la promenade des Anglais à Nice, en France. Lors de l'attaque, un camion cargo a accéléré et s'est écrasé sur une foule de personnes le long de la route. Au moins 84 personnes ont été tuées dans cet incident. Le chauffeur du camion, Mohamed Lauhayesh Bouhlil, a ensuite été abattu par la police locale. C'est toute l'histoire d'aujourd'hui.
Debar kencang bergemari darah tiap kali jumpa dirinya. Bercampur semua rasa yang ada dan hatiku bertanya-tanya, apakah mungkin dia definisi bahagia? Dengannya ku bersedia habiskan usia. Kan ku petik bintang di langit ketujuh, asalkan hati memang setuju. Pada hatimu ku terjatuh, ajaklah hatiku menari hingga tiada sedih di hati. Jadilah sebuah definisi bahagia yang selalu ku nanti. Debar kencang bergemari darah dan hatiku bertanya-tanya, apakah mungkin dia definisi bahagia? Bersedia habiskan usia. Kan ku petik bintang di langit ketujuh, asalkan hati memang setuju. Pada hatimu ku terjatuh, ajaklah hatiku menari hingga tiada sedih di hati. Jadilah sebuah definisi bahagia yang selalu ku nanti. Aku harap engkau mengerti, kala yang selalu ku dan bahagia di hati.
Voilà la chanson intitulée Définition Bahagia, chantée par Fili Aliano et Andine. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie à tout le monde. Voici mon Indonésie. Chers auditeurs, le titre de mon Indonésie aujourd'hui est 30 pays rejoignent le championnat international de tournoi de boxe de Labuan Bajo. 30 pays environ et des athlètes participaient au 23e Coupe de championnat international de tournoi de boxe du 22 au 28 juillet 2019 à Labuan Bajo, la province de Nusa Tenggara de l'Est, ou NTT. Président général du Conseil de l'Association nationale de boxe d'Indonésie, Joni Asadoma, dans un communiqué de presse au siège de la police régionale de NTT, a expliqué que 30 pays confirmant l'envoi de boxeurs amateurs à la plage de Pedestre Labuan Bajo, la région de Manggarai de l'Ouest NTT, sont, entre autres, les États-Unis, le Canada, les Émirats Arabes Unis, etc. En outre, Joni Asadoma, président général de PB Pertina Indonesia, a expliqué que le 23e Coupe Championnat International de Tournoi de Boxe de République d'Indonésie à Labuan Bajo opposera 8 classes masculines et 6 classes féminines pour un total de 14 matchs. Le 23e Coupe Championnat International de Tournoi de Boxe de République d'Indonésie, organisé à Labuan Bajo en 2019, débutera par une PC de boxeur, puis par une réunion technique et un responsable de réunion le 21 juillet. Pour les athlètes participant au championnat international de boxe, se verront remettre des médailles, des certificats de récompense et de l'argent d'entraînement pour les médaillés. Pour une médaille d'or de $500, une médaille d'argent de $300, et une médaille de bronze de $200 américains. Voilà mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Memberi warna indahnya safari. Bukit Savana.
Di 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 Bukit Savana.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de langue du cœur de 3325 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voynews.id. Chers auditeurs, c'est le temps maintenant pour nous de vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Chers auditeurs, voici la rubrique du magazine culturel. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le lieu touristique à Java Central, notamment à la plage de Sembukan. Alors, restez avec nous à Voice of Indonesia. La plage de Sembukan est située dans le hameau de Sembukan, au sous-district de Paranggupito, à la région de Wonogiri, Java Central, à environ 40 km à l'extrémité sud de Wonogiri, ou environ 2 heures de la ville de Wonogiri. Cette plage a une très belle sensation naturelle. En raison de sa beauté, certains considèrent qu'elle est le chef d'œuvre de Dieu au coin de Wonogiri. Chers auditeurs, à la région de la plage de Sembukan, il y a trois hautes collines pour admirer la beauté de la nature et pour prendre des photos. De plus, l'accès aux trois collines est très bon, il est donc très facile de le visiter. Sous la colline se trouve également une mosquée. Cette plage de Sembukan a non seulement des vagues, mais aussi le récif qui forme de belles collines. En outre, l'étendue de récif sur cette plage est une attraction fascinante pour les touristes. Les grands coraux qui se dressent fièrement sur la plage de Sembukan attirent les amateurs d'escalade. La plage de Sembukan à Wonogiri se distingue par le grand nombre de rochers coupants qui domine le littoral. Cela rend la plage moins confortable lorsqu'on nage et joue à l'eau. En outre, les vagues sur la plage de Sembukan sont également très grandes et ne vous permettent pas de nager là-bas. Mais pour vous qui aimez pêcher, vous pouvez apporter votre équipement de pêche. Là-bas, beaucoup de personnes pêchent en profitant du paysage naturel enchanteur de la mer. De plus, le paysage sous forme de collines calcaires ajoute à l'exotisme de la côte à Wonogiri. Chers auditeurs, pour profiter de la beauté de la plage de Sembukan, il vous suffit de payer 5000 rupiah. Bien qu'il soit situé à l'extrémité de la ville, l'accès à la plage de Sembukan est bien. Sur la route, vous verrez la beauté naturelle de la combinaison entre les collines de roches karstiques et les plantes typiques de la région. Si vous êtes en solo, pour arriver à Wonogiri est très facile. Désormais, outre la bus, le véhicule privé et les motos, vous pouvez également prendre un bus ferroviaire récemment inauguré. Vous pouvez prendre ce train en bus de la gare de Purwosari à Solo jusqu'à la gare de Wonogiri. La durée du trajet en train appelé train ferroviaire est d'environ 1h45. Le prix du billet pour Wonogiri est 4000 rupiah par personne. Ensuite, à la gare de Wonogiri, vous pouvez louer un véhicule pour aller à la plage de Sembukan. Après avoir admiré la beauté de la plage de Sembukan, vous pourrez déguster la genoa de coco fraîche en profitant du son de vagues Kiss the Breeze dan The Gros Rocher. Voilà le magazine culturel.
Voice of Indonesia.
Pagi telah pergi, mentari tak bersinar lagi. Entah sampai kapan ku mengingat tentang dirimu. Ku hanya diam, kerinduan memanggil namamu di setiap malam. Ingin engkau datang dan hadir di mimpiku. Rindu dan waktu kan menjawab.
Of Indonesia.
Kita membakar, api yang membara. Kita melangkah bersama, mewujudkan mimpi menjadi nyata. Satu asa dan sejiwa untuk meraih cita, tundukkan dunia.
Citra Lestari, dans le titre est Tundukan Dunia. Nous continuons notre programme avec les informations musicales. Pour ce soir, nous vous présentons la chanson de Raisa.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter la chanson de Raisa. Après avoir une longue période de repos due à la charge de ménage, Raisa produit à nouveau une œuvre. Le 9 juillet 2019, elle a publié une nouvelle chanson intitulée « Kembali ». Le même jour, la belle chanteuse qui a eu le statut de mère a également publié un clip de vidéo de la chanson « Kembali » sur sa chaîne de YouTube. En train de faire cette chanson, Raisa ne travaillait pas seule, mais avec Mika Angelo du groupe The Overtunes en tant que compositeur et Marco Stefiano en tant que producteur. À travers cette chanson, Raisa tente de raconter des histoires d'amour d'un point de vue différent. Elle a chanté sur quelqu'un qui se sentait triste parce qu'un personnage important de sa vie s'est transformé en un personnage qu'il n'a pas connu. Il espérait vraiment que le personnage pourrait redevenir celui qu'il connaissait auparavant. Bon, chers auditeurs, voilà la chanson intitulée « Kembali » chantée par Raisa. Bonne écoute!
Isi hatimu dan lepaskan egomu. Engkau sekeras batu, selembut pelukan. setinggi-tingginya dinding hatimu dan panasnya cemburuku. Dapat lewati bila kau harus uji, izinkan ku bertahan. Lelahkan ku sisihkan.
Songs Indonesia.
Thank you.
rasa cukup ku menunggu. Semua rasa telah hilang. Sekarang aku tersadar, cinta yang ku tunggu tak kunjung datang. Apalah arti aku menunggu bila kamu tak cinta lagi. Dahulu kaulah segalanya.
Chers auditeurs, c'est toute l'émission quotidienne en français pour ce soir. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de commenter à notre Facebook de Voice of Indonesia. Au revoir.